Quels sont les ingrédients indispensables à notre motivation ? Cet épisode me vient de la lecture du dernier livre de Benoît Chalifoux, L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles, ainsi que de la lecture de Drive, la vérité sur ce qui nous motive de Dan Pink. Vous vous souvenez certainement du discours de Kennedy en mai 1961.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space.
Nous sommes en 1962. Kennedy visite l'un des nombreux bâtiments de la NASA. Il est accompagné de son équipe, de quelques journalistes. Il aperçoit à quelques mètres de lui le concierge du site, qui lui-même observe la scène, appuyé contre le balai qu'il utilisait quelques minutes auparavant pour nettoyer le sol. JFK fait quelques pas vers lui, il croit nécessaire de se présenter, et puis il lui pose une question.
Que faites-vous ?
Alors n'importe qui, moi le premier, aurait bourdouillé le titre de son poste, peut-être en expliquant ce que cela recouvre au quotidien. Mais c'est pas du tout la réponse que les journalistes et le 35e président des États-Unis ont entendue. Le concierge lui répond :
Je suis en train d'aider un homme à aller sur la Lune.
Du président des États-Unis jusqu'au concierge du bâtiment de la NASA, tous allaient vers le même objectif, étaient motivés par la même ambition. Et 8 ans après le discours du 25 mai 1961, la NASA envoyait 3 Homo sapiens vers la Lune, mobilisant les industries de pointe, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs pilotes vers cet objectif. Alors que ce soit pour ses études, son travail ou ses activités associatives, nous sommes tous capables, comme les acteurs du programme Apollo, de nous dépasser pour peu que nous nous sentions motivés. Mais motivés par quoi ? Comment naît la motivation ? C'est la question que s'est posée Dan Pink. Et dans son livre, Drive, la vérité sur ce qui nous motive, il nous partage une histoire des mécanismes de motivation. La première version de ces mécanismes est celle de nos débuts d'hominidés. On ne peut pas vivre sans manger et boire, alors on se lève le matin pour chasser et chercher la source qui va nous permettre d'étancher notre soif. Ce sont nos besoins physiologiques qui dictent notre motivation. La seconde version est celle de la carotte et du bâton. On se lève le matin parce que on nous y oblige de façon coercitive ou on nous promet une gratification financière. Et si on fait ce qu'on nous demande, tout se passera bien et nous pourrons déguster la carotte. Mais sinon, gare au coup de bâton. En se basant sur des recherches scientifiques, Dan Pink, lui, plaide pour une troisième version, plus proche de notre nature et surtout de ce que la science sait désormais. Lier la rémunération à la performance, ou espérer augmenter l'efficacité d'un homo sapiens avec la peur de la punition ou la promesse d'un bonus financier, est un contresens aussi bien psychologique qu'économique. Et pourtant, si on y réfléchit, c'est bien sur ce contresens que nous pensons motiver les gens depuis 200 ans. Dan Pink va même plus loin. Pour lui, la carotte et le bâton dégradent la performance, notamment dans le cadre d'activités intellectuelles ou créatives, qui sont aujourd'hui les activités les plus soumises à des bonus financiers et représentent 70% des postes selon McKinsey. Le fait de savoir que nous allons être jugés sur notre performance limite notre champ de réflexion et donc nos capacités créatives. Et pourtant, c'est bien cette créativité qui nous est demandée. L'auteur donne de nombreux exemples, appuyé sur des observations de cohortes de personnes soumises à des règles de jeu différentes pour résoudre un problème. Souvent, la première cohorte se voit promettre un gain financier si elle réussit un exercice. La seconde, sur le même exercice, n'a reçu aucune promesse, si ce n'est le plaisir de résoudre un problème. Et les résultats basés sur les études du professeur Desi du MIT montrent que la seconde cohorte est systématiquement plus performante et résout plus souvent et plus rapidement les problèmes que la première cohorte. La motivation 2.0, donc c'est celle de la carotte et du bâton, marche uniquement dans le cadre d'activités dites algorithmiques, c'est-à-dire basées sur la succession d'étapes faciles à suivre, ne demandant que très peu de créativité. C'est par exemple Charlot qui tourne un boulon dans les temps modernes. Alors comment expliquer ça ? En vérité, l'engagement est la motivation la plus durable, est un tabouret. Et c'est un tabouret qui repose sur trois pieds. Le premier pied, c'est l'autonomie. Les géants du net, comme Google et Atlassian, donnent une très grande autonomie à leurs équipes en leur octroyant une journée par semaine dédiée au projet personnel de chacun au sein même de l'entreprise. C'est ainsi que Trello, Gmail, Google Street View ou encore Google News ont vu le jour. Il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de bâton, juste de la pure motivation. Le second pied du tabouret, c'est le besoin de maîtrise. Une étude de Stanford démontre que les élèves souhaitant apprendre pour le plaisir de maîtriser une matière, plutôt que pour avoir une bonne note, ont au final une meilleure moyenne. Idem à West Point, le Saint-Cyr américain. Les élèves qui n'abandonnent pas après le très dur entraînement initial de 7 semaines sont ceux qui sont capables d'endurer le plus longtemps parce qu'ils se sont fixés une ambition d'expertise sur le long terme plus forte. Le troisième pied, c'est le sens et l'impact de ses actions. Des sociologues de l'Université de Colombie-Britannique ont démontré que la façon dont vous dépensez votre argent va influer sur votre bien-être. Et donc vous serez plus heureux en donnant 100 euros à une association pour une cause à laquelle vous croyez, plutôt qu'en vous achetant un gadget électronique. La leçon de tout ça, c'est que développer sa sensibilité aux facteurs intrinsèques, plutôt qu'aux facteurs extrinsèques, vous amène à développer une motivation plus durable. Mais il y a plus important. Ça nous amène à des comportements plus sains, et à conduire notre vie sur des piliers plus solides que simplement le salaire ou le nombre de followers sur Instagram. Être motivé par l'autonomie, l'envie de maîtrise, le sens et l'impact de ses actions, c'est se donner la chance d'enrichir le monde plutôt que de l'appauvrir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.